L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, il est question d'histoire, de patrimoine local, très local, puisqu'on va tourner autour de l'Élorne et de la rade de Brest, entre Léon et Cornouailles, avec l'autrice d'un beau livre, ou plutôt la directrice de publication de cet ouvrage collectif de l'association Dourdon. Le livre fait 272 pages, il compte plus de 800 illustrations. Il a pour titre « Entre Léon et Cornouailles, 22 communes du pays de Landerneau-d'Aoulas ». On y découvre les merveilles du patrimoine, des patrimoines d'ailleurs, de ce qui est aujourd'hui une communauté de communes, la CCPLD. Nous allons voir s'il s'agit d'un territoire réellement cohérent du point de vue de la géographie physique ou humaine, avec donc une femme que vous connaissez aussi comme la présidente de l'association Lin et Chanvre en Bretagne. Bon, là, c'est pour l'association Dourdon, qu'elle est derrière le micro. Bonjour André Le Gall-Saint-Pierre. Toutes vos casquettes.
Bonjour. Une casquette en entraînant une autre.
C'est hein. Ça. Bah oui, voilà. Souvent. On connaît l'histoire. Voilà. L'association Dourdon, je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion de l'interviewer en tant que telle. Alors, vous pouvez nous en dire un petit mot pour...
Oui, alors l'association Dourdon, alors on devrait dire Dourdon puisque elle tire son nom de la Venelle Dourdon qui se trouve à Landerneau et qui veut dire eau profonde. Et on a commencé en fait comme une association de quartier, une association citoyenne de quartier dans le quartier Saint-Thomas, où on s'est occupé des poubelles, des parkings, de plein de choses, enfin, du quotidien, mais c'était aussi, on avait déjà cette notion de mise en valeur du patrimoine. Donc on a fait des photos, on a fait des expositions, notamment avec l'école, et on a allié un peu le passé et le présent, c'est-à-dire qu'on a fait des photos, puis on a dit aux gens, allez regarder, mais on était en 87, donc on était encore au début de l'intérêt pour les gens du patrimoine.
Et c'était dans quel coin de Landerneau
Quartier Saint-Thomas.
D'accord, ok.
Quartier Saint-Thomas, qui est un quartier riche d'histoire, riche de patrimoine bâti. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Et en 91, on a fait un livre qui s'appelait Landerneau en carte postale, puisqu'on avait travaillé avec les collectionneurs de cartes postales. Et il ne nous paraissait pas possible de faire un livre simplement sur le quartier Saint-Thomas. Mmh. Donc on s'était étendu à toute la ville, on a changé nos statuts, on est devenu association d'histoire locale, et on a laissé une autre association travailler sur le quartier.
Donc vous êtes consacré vraiment à l'histoire et au patrimoine à partir de
voilà.
Là.
Voilà. Ouais, ouais. Et en 95, on a pris pour limite ce qui était la communauté de communes à l'époque, qui est devenue communauté d'agglomération depuis le mois de janvier.
Voilà. Exact, donc c'est vrai, il faut que je me mette à la page.
On a pris ces limites-là parce qu'on s'est dit que c'était un territoire qui nous paraissait relativement cohérent, même dans l'histoire. Donc, et puis que, voilà, à un moment donné, il faut aussi se mettre des limites. Déjà, 22 communes, c'est beaucoup.
Mais oui, c'est
on
ça,
s'en
c'est...
rend compte quand on travaille sur
exactement,
un bouquin comme
ça. Et puis quand on voit la taille du livre. Donc, 22 communes, voilà, c'est un peu comme un atlas, hein, classé par ordre alphabétique. Les communes sont classées. Et alors, il est question des patrimoines, enfin, de patrimoine au sens large. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en l'occurrence, les patrimoines?
Vaste débat. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, le patrimoine? Nous, on a considéré, en fait, on est parti du patrimoine bâti, patrimoine civil et patrimoine religieux. Mais on a toujours en arrière-pensée le patrimoine immatériel aussi, parce que le bâti sans les hommes, ça n'a rien à voir. Alors c'est vrai que c'est très à la mode aujourd'hui, le patrimoine immatériel, mais pour nous c'est intégré depuis longtemps, même si on ne l'identifie pas. C'est-à-dire que quand on parle des bâtiments, on parle aussi des hommes. Quand on parle du lin, on parle aussi du travail autour du lin.
Donc, on pourrait dire patrimoine industriel ou économique en
économique,
tout cas.
Économique, voilà.
Oui. Donc, et puis un peu de patrimoine naturel aussi.
Et patrimoine naturel. Donc cette fois-ci, on a fait un chapitre sur le pays de Landerneau-d'Aoulas, puisqu'on avait fait une première édition en 2000 où on avait juste juxtaposé toutes les communes. Ici, l'idée, c'est quand même bien de dire comment ces 22 communes font territoire. Et un territoire qui a une cohérence, c'est vers là qu'on voulait aller. Donc là, on a parlé du patrimoine naturel, du patrimoine de la faune, de la flore, enfin, qui est présente. On voit sur une carte qu'on y a mise que c'est quelque chose qui est très présent sur le territoire.
Alors donc c'est une entité politique hein, de 22 communes, voilà. La communauté d'agglomération. Mais est-ce que c'est vraiment totalement un territoire du point de vue géographie, de la géographie physique, je sais pas, la géologie, géomorphologie
Globalement oui. Nous, ce qui nous intéresse, alors après, on a des différences entre le nord et le sud. Hein, oui, c'est sûr que voilà, on aurait pris Plougastel-Daoulas au lieu d'Anvec. Peut-être que ça aurait été plus cohérent au niveau histoire. Mais voilà, c'est un choix de limite auquel on s'est adapté. Il y a en tout cas, quand on travaille sur l'histoire, on s'aperçoit quand même qu'il y a une cohérence. On a des villes-centres et on a toute une campagne environnante qui a toujours été... Il y a une complémentarité qui s'est faite entre les deux. C'est-à-dire que le travail se faisait beaucoup dans les communes, le commerce dans les villes, ce que ça a beaucoup changé.
Oui, bah, c'est vrai. Hein, c'est ouais. vrai.
Donc il y a en tout cas une cohérence.
D'accord. Et oui, sinon il n'y a pas un seul bassin géologique. Enfin, il y a les Lornes, en fait, géographiquement.
Géographiquement, il y a les Lornes. Voilà. Mm-hmm. Après, on est entre Léon et Cornouailles. Bah, donc oui. Le jeu, c'est ça, c'est-à-dire... Vous savez, même dans Landerneau, il y a des gens qui ne veulent pas traverser la rivière. Voilà. Moi, je l'ai traversée au cours de ma vie. J'ai habité un coup en Léon, un coup en Cornouailles, sans que ça me gêne. Pour moi, c'est une richesse. C'est d'ailleurs une rivière qui est...
Donc au nord de l'Élorne, c'est le Léon, et au sud, c'est la Cornouaille.
Globalement,
gros, quoi.
Voilà. Globalement. Mmh. Oui, il y a eu des petites modifications quand même, mais c'est une rivière qui mériterait d'avoir un peu plus de bateaux, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Très bien. Quand je fais des visites, je dis que ça a été un port de commerce, parce que ça a quand même été le port de commerce de Brest. Donc, ça a été un port de commerce jusqu'au 18e, et même au 19e, quand moi j'étais, et même 20e, quand j'étais gamine, on voyait les bateaux qui arrivaient avec les bois du Nord, notamment. Et voilà, ça a été très actif. Aujourd'hui, bon, on a le Dalman,
voilà,
ce qui est une sacrée consolation.
C'est du patrimoine, voilà.
C'est du patrimoine.
Donc, le fait d'être à cheval sur le Léon et la Cornouaille, est-ce que ça a marqué quand même en termes de, comme vous dites, il y avait des petites rivalités, mais est-ce qu'il y a quand même eu une différence économique, par exemple, entre Léon et Cornouaille
Non, je pense que ce sont les axes routiers qui sont aujourd'hui les moteurs pour les communes. Hein, donc, on n'a pas vraiment tenu compte de ça. On est vraiment allé chercher dans les communes ce qui mettait la commune en valeur.
Alors justement, comment avez-vous travaillé? Alors déjà, il y a des historiens qui ont travaillé avec vous. Hein,
oui.
Je ne sais pas si vous voulez les citer, on peut les citer éventuellement.
Oui, puis il y en a. Alors on a des habitudes quand même, hein, puisqu'on avait déjà travaillé sur la Maison du patrimoine à La Roche-Maurice. Et donc on avait déjà travaillé avec Patrick Kerneves, qui est... À Quimper.
Spécialiste des châteaux, non ? C'est ça ? Des châteaux forts ?
Oui. Ouais. Et puis, avec Ronan Pérennec, qui est chargé des fouilles à la Roche-Maurice. Donc, on
pareil,
médiéviste, toujours.
Quoi, on va dire.
Oui,
voilà. Moyen-Âge.
Archéologue. Hein. Mmh. Donc,
tout à fait,
voilà.
On le reçoit régulièrement.
Ouais. Oui. Il y a toujours plein de choses intéressantes à dire. Donc, et puis, sur des sujets aussi pointus que le château de la Roche, on pouvait pas faire l'économie d'aller vers les spécialistes. Oui, quoi. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir un travail collaboratif. Nous, on a écrit des textes, on a fait les photos, mais c'est de faire un tout avec ça. Moi, c'était ça qui m'intéressait.
Vous avez fait les photos ou vous avez récupéré des photos aussi, peut-être, non ? Comment vous avez...
Alors,
parce qu'il y a 800, plus de 800 images, oui. Elles viennent d'où ?
Alors, il y a des photos que nous, on a faites. Mais il y a aussi des cartes postales anciennes. Et puis, il y a aussi des dessins. Alors, le plus compliqué, je crois que c'était de faire un choix d'iconographie pour Landerneau.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Parce qu'il y en a tellement et dans tous les sens. Et puis, on a quand même, aujourd'hui, on a un public qui a un téléphone portable et qui fait facilement des photos. Et puis, on a des bâtiments qui ont toute une histoire et qui ne sont pas forcément en bon état. Donc, est-ce que c'est notre rôle de le montrer dans l'état dans lequel il est ? C'est pas très attractif. Donc, on est allé chercher dans les archives de la ville de Landerneau, on est allé chercher des dessins. Par exemple, pour la Villa Bellerite ou même pour d'autres maisons. Hein, pour la maison de la Duchesse Anne qui a été très bien retapée, qui est magnifique aujourd'hui. On a fait le choix d'aller chercher un dessin de cette maison-là. Pour laisser la possibilité aux gens d'aller visiter, de faire des photos pour voir un petit peu ce qu'est devenue cette maison-là.
Et les sélections d'informations pour chaque commune, alors peut-être pas pour Landerneau, enfin, pour Landerneau, fallait peut-être faire des choix, ou pour Daoulas, de toute façon, il y a plus de pages pour les villes, communes, évidemment. Oui, ouais. Mais sinon, en fait, c'était pas trop difficile quand même de choisir les informations que vous alliez diffuser
Pas difficile, non. Après, on est des bénévoles, hein, donc on fait aussi avec nos coups de cœur. Donc, oui. L'idée, c'était quand même de retrouver des choses qui mettent un peu en avant la commune, mais peut-être des choses que les gens ne connaissent pas forcément.
C'est ça qui est sympathique dans ce livre, c'est que bon, il y a évidemment les classiques incontournables, hein, à chaque fois, je sais pas, l'abbaye à Daoulas ou le pont habité de Landerneau, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, on apprend plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Donc peut-être qu'on va, faire comme ça. C'est-à-dire que je vais vous demander de me parler. Ah oui, si, quand même, à chaque chapitre, on va reparler du découpage quand même, de chaque chapitre, comment c'est découpé, en gros. C'est toujours pareil, hein, c'est ça?
Oui, alors on a fait faire des photos par drone de toutes les communes. Donc on a une vue générale par drone. Alors certaines communes en possédaient déjà, hein, mais on voulait avoir une unité là aussi dans les prises de vue. Donc on a demandé à un photographe à la société Arpanum de nous faire des vues par drone de toutes les communes. Donc ça, pour les vues générales, c'était quand même quelque chose d'important. On a ce qu'on a par rapport à la première édition, donc qui n'a plus rien à voir, mais quand même le cheminement était le même. On a aussi mis plus de bretons. Voilà, on a de la traduction sur la page de titre, on a la traduction de la commune, le nom de la commune en breton. Là, on a toujours un sous-titre avec un sous-titre en breton. Le nom des habitants, ce qui n'est pas toujours évident,
oui, c'est pas facile,
en français et en breton.
Par exemple, les habitants de l'hôpital Canfrout, comment s'appelle-t-il ?
Les Canfroutois.
D'accord. Pas d'hôpital dans leur nom.
Pas d'hôpital dans leur nom, non.
Oui, non, c'est vrai.
D'accord. Donc voilà, après on a essayé d'avoir des éléments les mêmes pour toutes les communes, donc la courbe démographique, un peu d'histoire, la date du cadastre napoléonien, parce que c'est une archive sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et ce qui est nouveau aussi, ce sont les personnalités dans toutes les communes.
Ah oui, on va y revenir.
Alors ça a été un exercice,
ah oui,
parce que quelqu'un m'a dit, oui, mais tu vas pas en inventer s'il y en a pas. Je dis ouais, sauf qu'on n'est pas obligé d'avoir des ministres dans toutes les communes.
Ah ben non.
Voilà. Donc chaque commune a forcément un personnage, une personnalité qui a marqué la commune. J'ai eu dernièrement une des filles Quatalem de Dirinon. Elle me dit, mais pourquoi vous avez choisi mon père et mon grand-père? Je dis parce que quelque part, je pense que j'ai été marquée, moi, par toutes ces fêtes du cheval. J'étais allée au Studbook il y a quelques années. Enfin, c'était une histoire qui m'intéressait. Je savais que ça fera peut-être l'objet d'un cahier d'Ourdon.
C'est les gens qui organisaient la fête du cheval, c'est
ouais,
ça.
Oui, ils étaient très présents dans la fête du cheval. Et donc voilà, après, l'exercice, c'est quand même de trouver des photos.
Hein. Ben oui, aussi. Puis, alors, il ne fallait pas prendre forcément les anciens maires. Voilà, ce n'était pas forcément des élus. Hein. Et puis, comme vous êtes féministe, on le sait, vous avez même travaillé sur les femmes de pouvoir de Landerneau, je crois,
ouais,
c'est ça,
sur les femmes qui, potentiellement, pouvaient donner leur nom à des rues de Landerneau, puisque jusque-là. Donc ça, c'est en cours. Hein, donc,
d'accord. Bon, on en reparlera une autre fois, ouais. mais vous avez quand même trouvé des femmes dans
J'ai
ces personnalités.
Oui, ouais, ouais. Oui, bah oui, à Ploudiry, une femme qui a été mère, qui était trilingue parce qu'elle était, elle avait fait un séjour en Angleterre. Enfin, Jeanne Le Gall à Saint-Divy aussi. Oui, il y a des femmes qui ont. Et puis Julienne Daniel, une négociante à Landerneau, 18e, c'est pas rien non plus.
Ah ouais.
Voilà,
ah ouais,
montrer que les femmes avaient aussi leur place sur ce territoire.
Et d'ailleurs, je me demandais si une des cohérences du territoire, c'était pas justement, et là, c'est la présidente de l'association Lin et Chanvre que je m'adresse, mais est-ce que toutes les communes ont eu l'économie du lin de près ou de loin, ont été touchées par l'économie du lin de près?
Alors,
ou de, loin
de près ou de loin, oui, plus ou moins, suivant les communes. Je pense à Anvec, par exemple, qui a moins fait de lin, mais qui a fait de la laine, donc ça permettait aussi, ou Irvillac qui faisait de la berlinche, donc qui permettait d'associer
c'est quoi,
le lin.
La berlinche ?
La berlinche, c'est un tissu fait de laine et de lin.
Merci.
Ce qui pourrait nous satisfaire aujourd'hui encore, hein, d'avoir un tissu fait de laine et de lin. Mais ça, on en reparlera aussi.
Ça va revenir,
ça
peut-être.
Va revenir, oui. Donc, forcément, on a aussi mis dans ce livre, apporté toutes les tout, enfin pas tout, mais on a pioché dans tout ce sur quoi on avait travaillé depuis 20 ans.
Oui, les cahiers du Dourdon notamment.
Voilà, bon,
oui.
les manoirs, les femmes, comme vous le disiez, enfin bon, voilà, tout c'est le lin, évidemment, qui est quand même un sujet sur lequel on continue à travailler, et plus là dans le patrimoine, mais dans l'actualité. Ouais. Donc tout ça, c'était des choses qui n'existaient pas dans la première édition de 2000. Et qui sont présentes là. Mais aussi autre chose, moi ça m'a beaucoup amusée de trouver deux fromageries sur le
alors,
territoire.
Alors oui, on va en parler parce que ça vraiment, je n'en reviens pas. On faisait du camembert.
Mais... à la Neufrat et à la Roche-Maurice.
Mais alors pourquoi ça n'a pas duré?
Et ben, pourquoi ça repartirait pas?
C'est
quand même ça la question.
Et alors, déjà, pourquoi ils en étaient venus à faire du camembert?
Écoutez, ils ne sont plus là pour nous le dire, donc voilà, c'est plus qu'à imaginer. Mais oui, ce sont des histoires.
Et la fin de ces fromageries, c'était plus des raisons économiques, on ne sait pas où la famille s'éteint.
Mauvaises affaires.
C'était pas un complot des Normands contre le camembert breton.
Non, non. Puis on est très amis avec les Normands aujourd'hui. Il y a pas de souci. À propos du lin, en tout cas, on est très amis avec eux.
Et ces fromageries, c'était à quelle période à peu près?
C'était début 20e, hein, fin 19e, début 20e.
Et c'était des fromageries proprement dites, ou est-ce que c'était des fermiers qui s'étaient mis à la transformation finalement?
Je pense que c'était des fermiers. Non, c'est des gens qui, pour certains, alors je ne sais plus laquelle, parce que j'ai plus tout ça en mémoire.
La Roche-Maurice, par exemple.
C'était des gens qui avaient une connaissance quand même dans la laiterie. Je pense que ce sont. Mais vous savez, ce territoire, il a quand même attiré des gens, comme vous voyez, tous les négociants qui sont venus à Daoulas ou à Landerneau. C'est des gens qui venaient ailleurs et qui venaient. Le territoire était attractif.
Oui, oui, en effet. On voit alors dans la page de La Roche-Maurice, on voit l'étiquette du fameux camembert de La Roche-Maurice, oui. Avec une belle fleur de lys, à cause du château peut-être, je ne sais pas. C'est un camembert royal. Grande fromagerie Sainte-Anne, oui. La Roche-Finistère. Breton, soyez fiers de vos produits, un camembert breton vaut un camembert normand. Il y a de la provocation. C'était la publicité. C'est amusant. Et donc, on aurait bien. Alors, c'est une spécialité de camembert d'après les méthodes normandes. On aurait bien aimé y goûter. Oui, c'est vrai. Mais ça repart. Hein, c'est vrai. Il y a les fromageries, les fermes notamment qui transforment et font des tests de fromage.
Alors, je ne sais pas s'ils font du camembert. On a beaucoup de fromage de chèvre, je crois, par eux.
Oui, mais même en vache, là, ça commence à se diversifier un peu. Voilà.
Oui, du côté de Trévarne, à Saint-Urbain, il y a une
ferme. Exactement. Enfin, bon, voilà, il y a le fromage d'origine américaine. Par un Américain, il revient.
Voilà, donc c'est quand même... Alors, c'est un livre, pas un livre à lire sur la table de chevet. De toute façon, ça ne tient pas. Il fait 1,4 kg, donc ce n'est pas possible. Mais c'est plutôt à picorer, chercher, regarder... une commune ou une autre en fonction. Alors souvent les gens ont des attaches dans une commune, mais aussi quelquefois des attaches dans une autre, donc ça permet aussi de voir. Puis bon, l'idée c'est bien de faire territoire, quoi, d'avoir cet ensemble de communes.
Il y a plein de petits articles, il y a plein de sujets potentiels pour Radio Évasion. Alors à chaque fois aussi, il y a le patrimoine donc civil.
Civil, oui.
Alors par exemple, évidemment, c'est dans pratiquement toutes les communes, des manoirs, mais enfin moi j'ai vu les photos, je crois que j'ai jamais vu ces manoirs en vrai, enfin ils sont cachés.
Dans les communes, oui, ils sont souvent... alors il y a soit ils sont cachés parce qu'ils sont dans des domaines qui ont encore pas mal de terre, puis qui font pas de bruit en fait, soit ils sont dans des endroits où ils ont perdu leur terre et du coup ils ont été transformés. Et l'aspect d'origine n'existe plus, quoi. Ça arrive aussi. Donc ça, c'est un sujet qu'on a traité aussi dans un des cahiers. Après, on a les moulins. Donc on a dans
les manoirs. Juste parenthèse, c'est les manoirs de la fortune du lin ou il y a d'autres fortunes éventuellement?
Non, il y en a qui sont plus récents, qui ont été, qui étaient plus tardifs, hein, qui n'avaient plus rien à voir avec le lin.
Et sinon, la plupart, c'est ceux du lin. Ils sont de quelle époque à peu près?
17e.
D'accord. Ouais. Et oui, alors les moulins,
oui,
bien sûr.
Les moulins, oui, on a Didier Carnoncuve qui est spécialiste des moulins, donc il nous avait fait aussi un travail sur les moulins, la meunerie. Mais ça, c'est pareil, hein, les moulins.
C'est plutôt des moulins à eau, hein, c'est ça, enfin, à part moulin-mer.
Alors les moulins. Alors, dans les moulins, il faut différencier l'énergie. Donc, on parle de moulins à eau, de moulins à vent. et après ce qu'on y faisait. Donc les moulins, ils ont évolué, ils ont fait de la farine, mais quelquefois, ils ont fait autre chose derrière. Donc moulin à papier, il n'y en a pas beaucoup. Moulin à foulon, il y en a. Hein, il y en avait,
c'est quoi ça, moulin à foulon?
Ah, c'est pour le lin, on y revient encore, mais il est toujours présent. Pour fouler la berlinge, justement, puisqu'on ne peut fouler que ce qui contient de la laine. On ne peut pas fouler le lin, par exemple.
Ça n'a pas de sens, d'accord.
Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Donc voilà, donc des moulins à foulon. Par contre, des représentations, il y avait un moulin avant à Daoulas, on n'a pas de représentation. La recherche d'iconographie est quand même un gros sujet, quoi.
C'est ça, bah ça déterminait aussi sans doute les sujets dont vous,
oui,
dont vous parliez.
C'est quelquefois frustrant,
j'imagine.
Même, je dois dire.
On lance un appel. Il y a un colombier, par exemple, à Pincran. Est-ce qu'il y en avait des colombiers par là?
Oui, bien sûr, il y en a. Alors, il y en a un, Pont-Christ, je ne devrais pas citer Pont-Christ parce qu'il est sur la commune de Plounay-Vinterre, parce que Pont-Christ est aujourd'hui, le site est séparé entre deux communes, mais vous aviez des colombiers partout, vous en avez un, quelques restes à Dirinon aussi, enfin, tous les manoirs, en fait, les grands manoirs avaient leurs colombiers, sauf que les colombiers... Le recyclage des colombiers, c'est difficile. Hein. On ne pouvait pas en faire grand-chose. Et donc, on les a laissés tomber. On n'a pas pris le soin de les remonter. Donc, on en a
récupéré
traces.
Les pierres, quoi, en gros.
Oui, on l'a laissé s'écrouler. Donc, mais il reste trace de quelques-uns. Et puis, on a de la chance d'avoir des cartes postales, ouais, qui représentent celui de Pincran, par exemple. Mais, alors, moi, il y a longtemps, mais je suis allée à l'intérieur. J'ai pu compter le nombre de boulins. Enfin. Et puis, après, dans les pigeonniers... vous avez aussi dans les façades, comme dans la mairie d'Anvec, on en a trouvé aussi.
Il y avait un pigeonnier dans la façade de la mairie.
Enfin, oui, on voit dans la façade, oui, sur la façade, ce sont des boulins, des rangées de boulins, en fait.
Des boulins, c'est les trous pour les pigeons.
Les trous pour les pigeons, oui.
D'accord. Et donc, vous avez aussi, bien sûr, le patrimoine religieux. Comment y échapper? Alors là, vraiment, c'est la plus grosse partie, en fait. Hein, si on compte en termes de pages, j'imagine, oui, que c'est un peu là où il y a le plus d'images, déjà.
On est dans le Nord Finistère et on a aujourd'hui un travail sur les enclos. Bon, ça peut peut-être aider certaines mairies, d'ailleurs, à avancer sur leur dossier.
Le patrimoine, classement au patrimoine UNESCO.
Tout à fait, ouais, 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 ouais.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Avoir un livre comme ça, c'est un témoin, ouais, tout à fait. Dans le patrimoine funéraire, il faut peut-être dire un petit mot du monument aux morts de l'hôpital Canfoud, justement, ouais, qui est assez spécial.
Oui, alors on a mis le patrimoine immatériel, mémoriel, parce que mémoriel, c'est quelque chose qu'on est, sur lequel on a une vigilance. Et c'est important de dire combien de morts il y a eu dans les communes. Il ne faut pas que tout ça disparaisse. Alors, c'est vrai que à l'hôpital Canfroute, il y a le mémorial pour la guerre d'Indochine qui a une importance départementale. Et du coup, on a des choses plus... On a un chapitre qui est plus développé dans cette commune-là. Mais on a mis aussi dans ce chapitre-là les tombes des soldats américains, par exemple, que quand il y en a, soldats du Commonwealth, enfin, donc quand il y en a dans les communes, pour mettre ça quand même en avant et que les gens comprennent pourquoi ils ont ça dans leur cimetière.
Alors, en termes d'histoire, alors vous parlez évidemment des occupations très très anciennes, comme par exemple à Anvec, enfin, c'est de la préhistoire, de l'âge du fer, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme occupation très très ancienne aussi, à Pincran notamment?
À Pincran, au Tréhou, on a des haches, enfin bon, il faudrait peut-être presque faire une émission ou avec Renan Perrenac qui connaît bien le territoire, mais là il y a eu encore des fouilles et des trouvailles un peu partout. Chaque fois qu'on fait des recherches, en fait, on s'aperçoit que l'occupation du territoire est quand même ancienne.
Mais c'est ça, mais c'est normal. Ouais. C'était déjà agréable, j'imagine. Ouais. Le patrimoine naturel, alors par exemple le ciste de la forêt Landerneau, c'est quoi le ciste?
Alors le ciste, c'est une jolie petite fleur blanche. Qui se trouve généralement au sud Loire, mais qui a implanté. Alors maintenant, il y en a un petit peu plus, mais qu'on trouve sur le bord d'un chemin de randonnée là, qui est très agréable, à la forêt Landerneau.
Et c'est le seul endroit où on en trouve dans le Finistère du ciste, c'est
alors,
ça, non?
c'était le seul endroit. Bon, maintenant, je pense que on en a. Il doit y avoir d'autres variétés parce que j'en ai rencontré. Du coup, j'avais un œil un peu un peu averti.
Parce que là, c'est le site Hirsut.
Hirsut, oui.
Bon. Et en termes de patrimoine immatériel, enfin oui, de patrimoine immatériel, moi j'ai appris qu'il y avait eu des courses hippiques à la Martyre. Enfin, il y a toujours des courses hippiques à la Martyre.
Il n'y a plus de courses hippiques, mais... alors, la Martyre était connue pour ses foires importantes, mais aussi pour ses courses hippiques. Alors, le cheval, s'il y a des gens qui ont des études sur le cheval, ça fait partie des sujets qu'on voudrait développer dans un des prochains cahiers de Dourdoune, parce que le cheval était présent à Landerneau, il était présent à Dirinon, il était présent à la Martyre. Voilà, c'est...
Mais pas seulement à l'Andivisio,
autour...
quoi.
Et puis autour du cheval, vous avez les maréchaux. Vous avez l'histoire du maréchal Ferrand à Landerneau, enfin tout l'artisanat, tout ce qui va avec. Enfin, et puis aujourd'hui.
Et l'agriculture d'ailleurs.
L'agriculture. Et puis vous avez aujourd'hui la présence du cheval est quand même importante encore sur le territoire.
Tout à fait,
donc, donc voilà. Donc là, c'est vraiment un appel. S'il y a des gens qui ont des choses sur le cheval, on est preneurs.
Bon, alors, on aurait pu parler aussi de le golfe de Saint-Urbain qui existe toujours. Hein, voilà, vous l'avez mentionné.
Qui a été monté pour. Enfin, c'était un parc de loisirs qui devait être installé pour rendre le territoire attractif pour des cadres supérieurs.
Des pionniers, alors c'était à quelle époque? Années 60, alors, non?
Oui, années 60, oui.
Et bon, voilà, vous verrez dans ce livre, vraiment, je vous le recommande parce que donc ça s'appelle, je redis le titre... Entre Léon et Cornouailles, 22 communes au pays de Landerneau d'Aoulas, de l'association Dourdoune, sous la direction d'André Le Gall-Sanquer, que nous remercions. Merci André.
Merci, à la prochaine.
À bientôt,
pour un prochain sujet.
Sans doute pour le lin et le chanvre. Merci.
Ça marche, à bientôt.